www.radioorient.com.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h, vous écoutez Radio Orient, place à l'essentiel de l'actualité avec Souada Kermani. À la une de l'actualité, un accord commercial historique entre l'Union européenne et l'Inde conclu après 20 ans de négociations. L'actualité, c'est aussi la Syrie où Européens et Américains appellent à un cessez-le-feu durable et à l'unité nationale. Un cessez-le-feu fragile après les affrontements entre l'armée syrienne et les forces démocratiques syriennes. Et le dossier du jour est consacré au défi du multilatéralisme face à la montée des rapports de force. Explication dans quelques instants avec David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. L'Inde et l'UE se rapprochent après 20 ans de négociations. L'Union européenne et l'Inde ont conclu aujourd'hui un accord commercial historique. New Delhi va réduire fortement ses droits de douane sur la quasi-totalité des importations européennes, notamment les voitures et le vin. En échange, l'Inde obtiendra un meilleur accès au marché européen pour ses textiles et médicaments. L'accord s'accompagne aussi d'un partenariat de sécurité et de défense. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis appellent les forces gouvernementales syriennes et les combattants kurdes à éviter tout vide sécuritaire, un déficit sécuritaire dont pourrait profiter l'État islamique. Les affrontements entre l'armée syrienne et les forces démocratiques syriennes à majorité kurde ravivent les inquiétudes autour des prisons où sont détenus des milliers d'anciens djihadistes. Les États-Unis ont commencé à transférer des prisonniers vers l'Irak pour éviter des évasions djihadistes. Washington a annoncé la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix pour Gaza. Une annonce saluée par Paris. Cette étape prévoit le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza et le déploiement d'une force internationale. La restitution de la dépouille de Ran Gvili, soldat de 24 ans et dernier otage du Hamas, conditionnait le lancement de la deuxième phase du plan de paix américain. En Iran, les manifestations se poursuivent, bilan plus de 6000 morts selon l'ONG américaine Human Rights Activist New Agency. L'ONG enquête toujours sur 17 000 autres décès potentiels et sur au moins 41 000 personnes arrêtées. Elle dénonce aussi la diffusion à la télévision d'État de centaines d'aveux forcés arrachés sous la torture selon elle. Un porte-avions américain est arrivé dans le Golfe. Washington a déployé l'Abraham Lincoln et son escorte au Moyen-Orient pour promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Selon le CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, l'Iran met en garde contre toute intervention américaine après un récent mouvement de contestation. Emmanuel Macron recevra demain les dirigeants du Danemark et du Groenland sur fond de tensions liées essentiellement aux ambitions américaines. Objectif échangé sur la sécurité et le développement économique dans l'Arctique. Merci à vous d'avoir suivi ce point d'actualité. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. L'Inde et l'Union européenne signent un accord de libre-échange majeur. C'est l'aboutissement de plus de 20 ans de négociations. Un texte présenté comme historique dans un contexte de recomposition géopolitique. Les détails avec Nadia Bencher.
C'est un accord que New Delhi et Bruxelles attendaient depuis deux décennies. L'Inde et l'Union européenne officialisent la conclusion d'un ambitieux traité de libre-échange censé créer une zone économique de 2 milliards de personnes. Objectif immédiat, doper les échanges en abaissant les droits de douane dans de nombreux secteurs. Côté européen, Bruxelles met en avant un gain potentiel de 4 milliards d'euros par an grâce à la baisse des taxes indiennes sur des produits emblématiques. Les droits sur les voitures européennes doivent passer de 110 à 10%, ceux sur le vin de 150 à 20% et des taxes comme sur les pâtes ou le chocolat seraient supprimées. New Delhi, de son côté, espère accélérer ses exportations, notamment dans le textile, la joaillerie, le cuir et les services, le tout dans un climat géopolitique tendu. L'accord est aussi présenté comme un moyen de réduire les dépendances stratégiques face à la concurrence chinoise et aux effets de la guerre des droits de douane lancée par les États-Unis. Au-delà du commerce, l'Inde et l'UE annoncent également un renforcement de leur partenariat en défense et sécurité, ainsi qu'un accord facilitant certains mouvements, travailleurs saisonniers, étudiants, chercheurs et professionnels qualifiés.
Le début de la semaine a été marqué par une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renforcement du multilatéralisme. Comment maintenir l'ordre multilatéral alors que le président des États-Unis se joue des règles pour avancer ses intérêts? Le multilatéralisme, base de la gouvernance mondiale depuis 1945, fait face à un défi majeur, selon David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Et c'est une crise profonde du multilatéralisme qui était déjà sous-jacente lors du premier mandat du président Donald Trump, mais qui là prend une ampleur sans précédent. Donc il y a eu une vraie rupture qui est en train de se produire et effectivement qui remet en cause tous les fondements multilatéraux qui géraient les relations internationales depuis la seconde moitié du XXe siècle. Le président américain a confirmé le 8 janvier 2026 qu'il se retirait de quelque 66 institutions multilatérales, parmi lesquelles 31 organismes relevant de l'ONU et 35 institutions non-onusiennes, mais avec une culture effectivement multilatérale. Et donc c'est tout ce qui représente ce multilatéralisme qui est voué aux hégémonies par le président Donald Trump. Alors il y a des indicateurs, hein. Le 4 février 2025, il y avait déjà la sortie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et puis l'invalidation effectivement de l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme gérant l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et puis en juillet, le 22 juillet de dernier, c'était l'annonce de la sortie de l'UNESCO concernant le patrimoine mondial, avec l'idée d'un patrimoine commun à l'humanité. Donc c'est l'idée de s'extraire de tout ce qui peut relever du multilatéralisme, considéré comme une entrave, on va dire, à une marge de manœuvre purement nationale américaine.
Qui a les moyens de faire face à cela aujourd'hui ?
Personne. En réalité, le président Donald Trump peut faire figure d'une certaine manière, entre guillemets, de grand liquidateur de l'ordre international post-45. Paradoxe, c'est un ordre qui avait été largement façonné par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, avec la charte onusienne et puis les grands organismes multilatéraux type FMI, Banque mondiale. C'est précisément tout ça qui est remis en cause. Donc il y a des enjeux de gouvernance globale qui sont évidemment posés parce que ça induit des conséquences systémiques et personne n'est en mesure en réalité d'empêcher cette déstabilisation du multilatéralisme qui paradoxalement se trouve réinvesti par des pays comme la Chine, justement, qui se font fort de s'inscrire en faux et de vouloir maintenir une logique multilatérale alors même qu'elle est largement ébranlée aujourd'hui.
David Rigoulet-Rose estime que l'ordre multilatéral se délite et que l'ordre mondial est en pleine recomposition.
Oui, c'est un impact direct évidemment, puisqu'on le voit avec la réaffirmation d'une logique de puissance, voire d'une logique de prédation, avec des puissances en concurrence, parfois sévère, et avec une forme de nouveau partage du monde, mais qui a peu à voir avec ce qu'était le partage de Yalta, qui avait une dimension idéologique. Aujourd'hui, justement, c'est tout à fait différent. C'est un réinvestissement des espaces géocontinentaux, de sphères d'influence, effectivement, pour faire prévaloir des intérêts nationaux conformes à des nécessités économiques, notamment à la réaffection des ressources disponibles sur la planète. Et c'est ça qui, effectivement, est très dangereux parce que il y a potentiellement une logique d'affrontement qui ressurgit entre les différentes puissances, notamment avec des puissances montantes, celles que j'évoquais, qui considèrent qu'elles veulent avoir leur mot à dire sur la nouvelle gouvernance mondiale.
Avec un danger très important sur les territoires qui n'appartiennent à aucun bloc aujourd'hui et qui peuvent être prisés.
Oui, une logique, et c'est pour ça que j'évoquais une logique de prédation, on l'a vu effectivement, qui renvoie parfois à des représentations géopolitiques nationalistes. Hein. C'est le cas avec la guerre en Ukraine, l'agression russe en Ukraine. Il y a la question qui vient d'être posée sur le Groenland, qui rentre dans l'hémisphère occidental justement pour Donald Trump. Et puis vous avez la question de Taïwan qui va se poser d'une manière ou d'une autre. Donc on voit bien qu'effectivement le multilatéralisme est largement battu en brèche aujourd'hui. Qui est très préoccupant parce que c'était quand même un moyen de canaliser effectivement des velléités de violence géopolitique qui vont s'exprimer de plus en plus.
C'était David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, au micro de François-Xavier de Calonne. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. C'est la fin de votre édition. Merci de votre écoute et merci beaucoup à Mohamed Bizri pour la réalisation. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.